les jardinières.
Bon réveil et bienvenue chez les jardinières. Nous sommes le 19 octobre et le dicton du jour nous dit « À la Saint-René, couvre ton nez ». Mais on ne va pas parler de mode ici, c'est le jardin qui nous intéresse. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Ce matin, nous accueillons Jordi González. Bonjour Jordi.
Bonjour Mylène, bonjour Brian.
Jordi González, vous êtes horticulteur et propriétaire du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Soyez le bienvenu.
Merci.
Et puis les jardinières, c'est votre émission Jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Soleil dans le haut, la plupart du temps, et brouillard dans le bas et les vallées. Un vrai temps d'automne nous a accompagnés cette semaine. Alors Jordi, qu'est-ce qu'on peut faire en extérieur ces prochains jours si on a de la visibilité?
Alors ouais, on peut profiter du beau temps qui s'annonce pour la semaine prochaine. On verra si c'est vrai ou pas, hein. Pour récolter les derniers fruits et légumes de garde et puis commencer à les conserver à la cave. On peut aussi tailler les pêchers maintenant, on peut planter les fruitiers et les arbres d'ornement par exemple.
Merci Jordi, vous êtes notre invité jusqu'à 8h et en deuxième partie d'émission, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Des questions qu'on attend soit par téléphone au 0900 70 20 20 et vous aurez la chance de poser votre question en direct à notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet et joindre une photo à votre question. C'est sous l'onglet émission questions aux jardinières ou alors vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Dans la suite des jardinières, Jordi nous parlera du terreau, comment s'en servir, comment le choisir. Bref, vous saurez tout, ça sera juste après la pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Les plantes ont besoin de soleil et d'eau, mais aussi de nourriture, et leur nourriture se trouve dans le sol. Jordi González, vous êtes horticulteur et ce matin, vous allez nous parler de substrat. Alors, pour commencer, en quelques mots, le substrat, c'est quoi ?
Alors le substrat, c'est ce qui permet à une plante de grandir, de s'épanouir, mais ça permet pas seulement aux plantes de faire ça, ça permet à bien d'autres organismes de le faire, comme des champignons par exemple, qui ont besoin d'un substrat. En d'autres termes, le substrat, c'est toutes les matières qui composent le sol dans lequel une plante elle va pousser. On peut aussi l'appeler le terreau dans le jargon horticole.
Et puis quelles plantes, au juste, ont besoin de substrat ou de terreau ?
Alors, la majorité des plantes en ont besoin. Selon les plantes, il peut être très différent. On ne va pas utiliser le même terreau s'il s'agit d'une bruyère ou s'il s'agit d'un cactus, par exemple. Pour la petite anecdote, les orchidées papillons ou les phalaenopsis, pardon, elles ont en réalité pas besoin de substrat. Elles sont dites épiphytes. Elles poussent dans la nature sur les branches des arbres et puis elles prélèvent leurs nutriments directement dans l'air avec leurs racines aériennes.
Alors, Jordi, de quoi se compose un terreau finalement ? Parce qu'on sait qu'il y a de la terre, mais il y a d'autres choses.
Alors, un terreau, il peut se composer de matériaux très différents, comme du sable, du compost, du bois fragmenté, de l'argile expansée, de la tourbe, et j'en passe. Il y a énormément de composés et ils peuvent être utilisés dans des quantités qui sont très différentes selon les plantes pour lesquelles va être fait le terreau.
Alors en jardinerie, on trouve aussi du terreau universel. Est-ce que ça fait l'affaire pour toutes les plantes ?
Alors, le terreau universel, c'est un petit peu oui et non. Il va convenir à la plupart des plantes, sans pour autant être idéal. Dans certains cas, c'est important de choisir un terreau qui est bien spécifique au type de plante. C'est le cas pour les agrumes, c'est aussi le cas pour les orchidées. Ben, je parlais avant de la phalaenopsis. Celle-là, par exemple, elle aura besoin d'un terreau qui est très, très léger. Ce sera fait principalement à base d'écorce de pin et en fait c'est pour essayer d'imiter un petit peu le support sur lequel elle est dans la nature.
Alors il y a ce terreau universel qui est bien pratique, mais il existe beaucoup de sortes de terreaux. Et puis alors, je pense que je ne suis pas la seule, mais souvent en jardinerie on se retrouve un peu penaud devant ces sacs alignés et puis on finit quand même par prendre ce fameux terreau universel. Quand on ne sait pas, est-ce que c'est quand même une bonne idée ou pas du tout ?
Alors, je dirais que hors des cas spécifiques que j'ai cités avant ou d'autres cas, en soi, c'est pas une mauvaise idée pour un particulier de choisir un terreau universel. Il va convenir à beaucoup de plantes et il va être universel, comme son nom l'indique. Il va faire l'affaire dans beaucoup de situations, du coup. Le mieux, c'est toujours de demander au moment de l'achat d'une plante ou d'un terreau à la personne, au vendeur ou à la vendeuse qu'on a en face de nous pour savoir lequel est le mieux.
Et puis Jordi, comment est-ce qu'on fait pour bien utiliser un terreau ?
Alors, ça dépend. Il faut savoir de quel type de terreau on a affaire. En principe, derrière le sac de terreau, c'est marqué ce que le terreau va contenir. S'il contient de l'engrais, s'il n'en contient pas, il faudra rajouter peut-être un peu d'engrais. C'est souvent le cas pour des terreaux qui sont bio parce que l'engrais organique, il a tendance à travailler relativement vite une fois qu'il est en contact avec le terreau. Donc, certaines fois, il peut ne pas être mélangé directement avec le terreau.
D'autres consignes pour bien utiliser le terreau, ou vous avez tout dit ?
Non, j'ai tout dit. Après, bah voilà, il faut arroser le terreau de la façon dont il doit être arrosé. Donc, si c'est un terreau qui est très lourd, il va bien retenir l'eau et il va peut-être devoir être moins arrosé qu'un terreau qui est très léger et qui va laisser passer l'eau beaucoup plus facilement.
7h, 8h. Les jardinières.
Nous sommes en compagnie de Jordi González, horticulteur à Neuchâtel. Juste avant la pause musicale, Jordi, vous nous expliquez comment utiliser un terreau qu'on aura trouvé en jardinerie par exemple, mais est-ce qu'on peut fabriquer son terreau soi-même, le do-it-yourself du terreau ?
Bien sûr qu'on peut le fabriquer soi-même. Mais pour cela, il faut savoir quels sont les besoins de la plante pour laquelle il va être destiné ce terreau. Il faut aussi utiliser les bons éléments et dans les bonnes proportions, évidemment. Parce que si on met que du compost, ça va être un mauvais terreau. Si on met trop d'engrais, ça peut être toxique pour les plantes, etc. etc. Après, il faut qu'il ait les bonnes propriétés. Et puis pour ça, il faut savoir comment s'y prendre. Donc il faut se renseigner peut-être un petit peu avant.
Est-ce que vous fabriquez votre terreau vous-même pour certaines plantes ?
Au Jardin des Senteurs, on fabrique notre terreau. On a un autre terreau universel, plus ou moins, qu'on va utiliser pour pas mal de nos plantes. Après, on va rajouter par-ci, par-là, certains éléments pour l'adapter suivant le type de plante auquel on a affaire.
Et Jordi, dans certains terreaux, on trouve de la tourbe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est la tourbe et puis aussi nous dire pourquoi on n'en prélève plus en Suisse ?
Alors, le sujet de la tourbe, c'est un sujet qui est très compliqué. Tout d'abord, c'est un élément qui est un petit peu magique dans son utilisation. Elle permet d'avoir un substrat qui retient mieux l'eau, qui retient aussi mieux les nutriments essentiels pour les plantes. Elle a le pouvoir d'acidifier un terreau, ce qui convient à beaucoup de plantes et puis aide à la culture. Elle est aussi exempte de pathogènes. Par contre, ce qui est un petit peu moins bien, c'est qu'elle provient de milieux qui sont très fragiles et hyper importants pour la biodiversité et la nature. On les appelle les tourbières. En Suisse, on a des tourbières, mais elles sont protégées. On n'en prélève plus depuis 1987 à peu près. Ce sont des milieux qui prennent énormément de temps à se former. Ils ont un rôle majeur dans la fixation du carbone atmosphérique. Et c'est des énormes puits de carbone qui sont comparables aux forêts primaires comme l'Amazonie, par exemple. Ensuite, elles permettent de maintenir et puis de valoriser des plans d'eau qui sont favorables à une faune qui est spécifique aux tourbières et qui est très vieille aussi. Et puis, faut savoir qu'en Suisse, à l'origine, les tourbières, ça représentait à peu près 10 000 hectares et qu'aujourd'hui, la surface, elle a été divisée par 10. Donc, on n'est plus qu'à 1 000 hectares de tourbières. C'est en train de se reformer, mais ça prend vraiment énormément de temps.
C'est pour ça qu'on a décidé de les protéger.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous proposer des alternatives aux terreaux qui contiennent de la tourbe, même si on sait que c'est un très bon nutriment ?
Alors oui, heureusement, il existe des matières qui imitent la tourbe. Ce sera jamais exactement la même chose, mais on arrive plus ou moins à pallier le fait de plus avoir de tourbe dans les terreaux. On peut utiliser des succès d'années de bois. Donc c'est du bois qui sera broyé très finement suivant l'âge du bois ou le genre et l'espèce d'arbre qui est utilisé pour faire ça. Il va avoir un pouvoir plus ou moins acide, il va retenir plus ou moins d'eau. Il y a aussi du coco, ça s'appelle, c'est de la peau des noix de coco qui est broyée, qui va ressembler un petit peu à la tourbe dans la rétention d'eau et de nutriments, par exemple. Mais ça vient aussi de l'autre côté du monde, le coco, donc c'est aussi à proscrire, quoi.
Et Jordi, en jardin, il arrive que l'on ait les yeux plus gros que le ventre. Du coup, on fait quoi avec les sacs de terreau qui nous restent en fin de plantation ? Est-ce qu'ils ont une date de péremption ? On peut les réutiliser ?
Alors non, il n'y a pas de date de péremption à proprement parler, mais c'est vrai que c'est mieux de les utiliser assez rapidement. Déjà parce que si vous êtes en présence d'un terreau qui est bio et qui aura des engrais organiques à l'intérieur, comme j'ai dit avant, ils ont tendance à travailler très rapidement et du coup ça va faire chauffer, ça va faire travailler le terreau, il sera plus bon au moment de l'utilisation. S'il est mal conservé aussi, pour conserver un terreau, il faut le mettre dans un endroit qui est sombre, aéré et sec. Et aussi frais, s'il fait 30 degrés tout le temps dedans, c'est pas très bien. Et Ben, c'est d'autant plus important justement pour ces terreaux qui sont bio avec des engrais organiques.
Et puis, des fois, ça arrive quand on récupère un sac de terreau qui n'est pas là depuis très longtemps, mais il y a des petits champignons dessus. C'est un problème quand on veut l'utiliser sur nos plantes, ces petits champignons ?
Alors non, ça ne va pas être un problème. La plupart du temps, ces champignons, ils sont dus en fait à la décomposition du terreau parce que souvent, les matières qui sont utilisées ne sont pas totalement décomposées et du coup, il y aura peut-être des germes de champignons, mais qui seront là pour décomposer le terreau et qui ne vont pas s'attaquer aux plantes.
Les jardinières.
Bienvenue chez Les Jardinières, si vous nous rejoignez maintenant. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jordi González, propriétaire du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Et ce matin, nous parlons de terreau, de substrat. Et puis, après encore quelques questions, il sera temps de répondre aux questions de nos auditeurs.
Et pour poser vos questions, justement, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute et parler en direct avec Jordi. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question au 939. Et puis un formulaire est aussi à votre disposition avec la possibilité de joindre une photo à votre question. Ça se passe sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Moi, Jordi, en première partie d'émission, on a parlé de terreau, de son utilisation, de sa composition. On aimerait savoir quels sont les points importants à retenir pour choisir la bonne base pour la plantation.
Alors, déjà, il faut choisir un terreau qui est adapté à la plante auquel il est destiné. Comme on l'a dit avant, le mieux, c'est aussi de choisir un terreau sans tourbe, parce qu'on l'a dit aussi que la tourbe, ce n'était pas forcément un élément qui était très facile à prendre et très bon à prendre dans la nature, même s'il a des avantages qui sont très bons. Ensuite, vous pouvez utiliser des terreaux. En Suisse, on a des terreaux de la marque Ricotter qui sont vraiment très bien et qui sont sans tourbe. Ils font beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et après, pensez à acheter votre terreau quand vous en avez besoin et pas en prévision d'en avoir besoin plus tard. Donc le mieux, c'est d'en acheter au printemps quand vous faites vos plantations pour pas devoir le garder. Si maintenant il vous reste un petit peu de terreau, vous pouvez toujours le mettre dans le jardin ou bien rajouter un petit peu dans vos pots à la maison pour le finir et puis pas devoir le stocker.
Et puis, merci beaucoup Jordi pour vos précieux conseils, des conseils que vous pourrez d'ailleurs retrouver en intégralité en podcast sur notre site internet en cours de matinée.
Et puis Jordi, on va directement enchaîner avec les questions qu'on a reçues de nos auditeurs cette semaine. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous avez une question, n'hésitez pas, vous nous appelez 0901 70 20 20. On vous répondra avec plaisir. On a reçu une question de Valérie de Delémont avec une photo de ses plantes. J'ai une verveine citronnée plantée en pleine terre cette année, sud-sud-est. Est-ce que je peux la laisser dehors ou faut-il la mettre en pot et la mettre sous abri ? Et puis peut-être, on va commencer par décrire la photo, Jordi, cette plante.
Alors, on voit une verveine qui doit être plantée en pleine terre, mais je pense que c'est dans un bac de balcon. En tout cas, au bord d'une maison, il y a une bordure en béton. Alors, il faut savoir que la verveine, c'est une plante qui est quand même assez frileuse. Elle n'aime pas trop les températures négatives. Elle n'aime surtout pas quand ses racines, elles gèlent. Donc le mieux, ce serait quand même de la mettre en pot et sous abri et de la garder hors gel, un petit peu comme les géraniums et les autres plantes en fait méditerranéennes.
Et là, vous dites un abri, genre une mini-serre, elle pourrait mettre ?
Ça pourrait être une mini-serre. L'important, c'est que ce soit hors gel. Il n'y a pas besoin forcément de lumière parce que la verveine en dessous de 7 à 10 degrés, elle va perdre toutes ses feuilles. Du coup, elle n'a plus besoin de faire de photosynthèse et du coup, elle n'a plus besoin de lumière. Mais là, il faut faire attention aux arrosages pendant l'hiver, qu'ils ne soient pas trop fréquents. Vu qu'elle évapore plus d'eau, elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau en arrosage.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Et vous pouvez poser vos questions à notre invité. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jordi González, horticulteur à Neuchâtel. Alors Brian, on va peut-être rappeler comment nous joindre pour les gens qui arrivent maintenant.
La première possibilité, c'est par téléphone. Vous nous appelez dès maintenant au 0901 70 20 20 et vous aurez la chance de parler en direct à notre spécialiste. Vous avez aussi la possibilité du SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous terminez par votre nom et puis vous nous l'envoyez au 939. Et puis troisième possibilité, sur notre site internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Vous aurez cette fois la possibilité de joindre une photo à votre question. C'est vrai que ça peut aider aider notre jardinier.
Exactement ce qu'a fait Christophe de Kourou. Il nous a envoyé une photo d'une pomme. Bonjour, en cueillant récemment mes pommes, je remarque que souvent les plus belles ont été mangées. Alors c'est vrai, il nous a envoyé une photo d'une pomme qui a un gros trou dedans, qui a été grignotée. Alors il a deux questions, il aimerait savoir qui fait ça. Si c'est les oiseaux ou les guêpes, et comment peut-on l'éviter? Alors Jordi, vous avez la photo sous les yeux. Est-ce que vous arrivez comme ça à nous dire qui a croqué cette belle pomme?
C'est assez difficile à dire comme ça, mais je dirais que c'est une conjugaison entre les deux. C'est sûrement un oiseau qui a commencé par piquer dans la pomme. Et une fois que la peau était ouverte, il y a les guêpes, abeilles, les autres petits insectes qui avaient faim qui ont été se servir dans la pomme.
Et est-ce qu'on peut éviter ce problème? Enfin, ce problème, oui.
C'est difficile à éviter. Il faut voir aussi combien ça touche de pommes. Parce que si c'est très peu de pommes, enfin, je vois nous avec nos figuiers, par exemple, au jardin, où on ne fait absolument rien pour l'éviter parce que y a la place pour tout le monde. Tout le monde qui peut y trouver son compte. Au final, les oiseaux ils vont manger les figues qui sont trop hautes pour nous à ramasser. Et puis nous, on va se servir un petit peu avant eux. Et puis comme ça, on arrive aussi à en avoir pour nous. Maintenant, pour les pommes, bah, soit on les ramasse avant, on peut aussi mettre des filets, mais c'est assez compliqué à faire. Et puis après, il y a aussi des détecteurs de présence avec des bruits, enfin des sons qui peuvent être mis en place. Ça coûte cher et c'est quand même, enfin ça marche pas dans tous les cas. Les oiseaux, ils sont quand même assez intelligents et suivant comment, il faut que la fréquence des sons change, que ce soit aléatoire pour que ça marche vraiment.
Faut aussi prendre un chat.
Oui, voilà.
Jordi, quand on trouve une pomme comme ça, qui est vraiment, vraiment belle, sauf ce trou, on peut quand même la consommer?
Oui, bien sûr. Il faut juste couper le bout où ça a été troué. Et puis après, on peut manger le reste, quoi.
Merci, Jordi. On va enchaîner, Brian, sur une question orchidée.
Exactement, c'est Marlène de Cortébert qui nous pose cette question. Bonjour, j'ai eu la surprise de voir que mon orchidée a donné un autre genre de fleurs. Comment est-ce possible? Et d'autre part, pouvez-vous me dire ce que je peux faire contre les cochenilles? J'ai déjà essayé les produits du commerce ainsi que le mélange avec du savon noir avec mes meilleures salutations. Alors déjà, elle nous a mis une belle photo de fleurs. On va commencer par répondre à sa première question peut-être. Comment est-ce possible d'avoir un autre genre de fleurs d'orchidée?
Alors moi personnellement, je ne l'ai jamais vu. Maintenant, je sais que c'est possible selon l'âge de la plante, si les conditions de culture elles changent, donc si l'engrais a changé, si elle a été rempotée, si comme elle a parlé de cochenilles, peut-être qu'il y a des cochenilles sur la plante, ça peut faire fluctuer la couleur des fleurs. Je ne sais pas ce qu'elle entendait par genre de fleurs, si c'était la couleur ou bien le genre. En principe, la forme des fleurs, elle ne devrait pas évoluer, c'est vraiment la couleur qui peut évoluer.
Et puis contre les cochenilles justement, elle dit qu'elle a déjà utilisé des produits du commerce et un mélange avec du savon noir. Est-ce qu'il y a une autre solution peut-être?
Alors ce qui peut être fait, c'est utiliser, enfin ce qui marche très bien contre les cochenilles, c'est l'huile d'hiver, c'est une huile de colza en fait, et puis c'est des huiles végétales, je sais plus comment on dit.
Végétales.
Mais ça peut être utilisé, en fait, ça va couvrir la cochenille et ça va l'empêcher de respirer, ce qui fait qu'elle va mourir et du coup, elle ne va plus pouvoir attaquer la plante. Ça marche assez bien, mais il faut pas faire ça à l'intérieur parce que ben, ça met de l'huile un petit peu partout à l'intérieur et c'est assez difficile de nettoyer après.
Alors, si elle a des cochenilles sur cette orchidée, on ne sait pas si Marlène a d'autres plantes. Est-ce que les cochenilles peuvent aller gentiment de plante en plante? Et là, ça devient un peu l'invasion. Il faudrait faire une quarantaine d'orchidées?
Oui, il faudrait essayer de ne pas la mettre tout collée contre d'autres plantes ou bien sur le poids d'autres plantes. En principe, les cochenilles, elles ne se déplacent pas non plus énormément. Elles ont tendance à s'accrocher à une plante. Après, elles vont pondre des œufs qui vont retomber dans la terre, enfin dans le substrat de la plante. Et en général, ça va réattaquer tout le temps la même plante, sauf si c'est assez proche d'autres plantes pour pouvoir se propager à d'autres plantes.
7h, 8h, les jardinières.
Le temps passe vite le samedi matin, il est déjà presque l'heure de se quitter. Alors Jordi, l'automne bat son plein, hein, on le voit bien en extérieur. Et qui dit automne dit feuilles mortes. Alors, question finale, qu'est-ce qu'on fait des feuilles mortes à part des tas pour sauter dedans?
Alors, les feuilles mortes, elles ont plein d'utilités. On peut déjà, on pourrait les mettre au pied des arbres, par exemple, pour couvrir le sol et puis pour donner, enfin, pour quand elles se dégradent, elles donnent un petit peu de matière au sol. On peut aussi couvrir d'autres plantes qui sont un peu plus frileuses. On parlait de la verveine avant. Typiquement, ça pourrait être une idée. Ça marche pas forcément, mais ça pourrait être une idée. Et puis surtout, les feuilles mortes, on peut en faire du compost uniquement de feuilles mortes, qui va se dégrader très vite et qu'on va pouvoir utiliser directement au printemps en mélangeant avec notre terre pour en faire du terreau et pour pouvoir ajouter un petit peu de légèreté, enfin presque un peu comme la tourbe, j'ai envie de dire.
Vous avez parlé qu'on mettait les feuilles mortes soit au pied des arbres, soit dans le jardin. Est-ce qu'au printemps, on les retire ou elles seront déjà toutes décomposées ?
Non, on peut les laisser. Celles qui ne sont pas encore décomposées vont se décomposer. Elles vont aussi être, faire office de paillage et du coup, elles vont permettre à l'eau de rester dans le sol. Pardon.
Merci beaucoup Jordi pour vos conseils jardinage de ce matin. On rappelle que vous êtes horticulteur et propriétaire du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Bon week-end et puis à bientôt chez les jardinières.
Merci.
Merci beaucoup Jordi. La semaine prochaine, nous recevrons Cathieu Racine, jardinière et guide de randonnée nature dans le Jura. Et puis n'attendez pas samedi prochain pour poser vos questions. On les attend par SMS par exemple. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question, votre nom et vous nous l'envoyez au 939. Vous pouvez aussi envoyer une photo via le formulaire. Ça se passe sur notre site sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Alors Brian, vous allez... brasser du terreau ce week-end ?
Non, je vais sauter dans des feuilles mortes.
Ça, c'est une bonne idée. Et puis peut-être, vous pouvez aussi aller aux champignons. Bon week-end et puis à samedi prochain chez les jardinières. Au revoir.